BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Allez, on est de retour pour la seconde partie de l'émission. Il est 10h, passé de 1 minute. Vous êtes toujours en direct sur BFM Business. C'est les experts avec une ambiance formidable sur le plateau entre Jean-Marc Daniel, Olivier Loinci et Emmanuel Combes. Ça débat fort ce matin. On va continuer sur le protectionnisme, Emmanuel, avec cette réunion du collège des commissaires prévue, un séminaire en fin de semaine, le 29 mai, pour réfléchir aux voies et moyens de se protéger contre les surcapacités chinoises. Le programme précis, c'est quels sont les instruments d'une politique de défense commerciale plus affirmée et plus efficace. Est-ce qu'il faut du protectionnisme ?
La réponse est oui. Ça peut paraître étonnant pour un économiste qui se dit plutôt libéral, mais un ciblé, et surtout, et j'insiste là-dessus, c'est le plus important pour moi, dans le respect des règles de l'art. Qu'est-ce que j'appelle les respects des règles de l'art. Il y a un truc qui s'appelle l'OMC, dont tout le monde dit qu'elle est morte. Elle n'est pas morte, elle existe. Il y a même un organe d'appel qui fonctionne, alternatif, dont les États-Unis ne font pas partie, mais la Chine fait partie. La Chine n'arrête pas de nous expliquer, depuis 20 ans, je veux jouer les règles de l'OMC. Il y a deux règles dans l'OMC qui sont absolument capitales, l'anti-dumping et l'anti-subvention. Si vous avez des surcapacités, si vous voulez vendre à l'export, vous avez la tentation de faire quoi ? De baisser les prix. Or, vous le savez, si vous vendez moins cher à l'exportation que sur votre marché domestique, ça s'appelle en droit du dumping. Et bien que l'Europe utilise davantage son arsenal anti-dumping. Pourquoi je pense que c'est intéressant de jouer avec les règles de son adversaire ? Parce que vous dites à la Chine, mais puisque vous dites vouloir respecter les règles de l'OMC, vous ne pouvez pas nous reprocher. Donc vous êtes inattaquable. Par contre, je ne crois pas à une sorte de protectionnisme un peu tombé du ciel, tel que celui du commissariat général au plan. On nous expliquait qu'il fallait mettre 30% de droits de douane sur tout. On a vu d'ailleurs que sur la voiture électrique, ça n'a pas marché.
Le rapport de
Donc,
Thomas Grébin a été régulier.
Ça existe. Anti-subvention. Il y a une règle, anti-subvention. Déclenchons plus d'enquête. Donc vous voyez, je crois qu'on a en fait les outils, c'est pas la peine d'inventer des nouvelles choses, on a les outils.
Il faut les appliquer, oui, mais encore faut-il que les acteurs les respectent.
Et on pourrait même, de toute façon, si vous respectez pas, vous faites un recours devant l'OMC. Je vous rappelle qu'on a gagné au mois de juillet, la Chine a été condamnée en matière de droit de la propriété intellectuelle. Donc tout ça existe. Mais je ne crois pas à l'idée de sortir de nouveaux instruments. Pourquoi ? Parce que la Chine serait fondée pour nous dire, écoutez, vous avez mis un protectionnisme généralisé, on va mettre en place des représailles. Et qui paiera la facture ? Airbus, le luxe, l'industrie laitière, etc., etc. Donc je crois qu'il faut jouer avec les règles de ses adversaires.
Pour Emmanuel Macron, l'inspiration, elle vient plutôt du côté américain. Olivier Loinci, il a dit que l'Europe devait s'inspirer de l'arsenal de défense commerciale américain en citant la section 301 du Trade Act de 1974.
Emmanuel a raison dans le sens où il faut activer ce qui existe
déjà. Les droits de douane ciblés, pour être clair.
Activer ce qui existe déjà. On est très mauvais sur les mesures de sauvegarde, très mauvais de demander à la chimie. La Commission européenne, à mon avis, n'a pas pris conscience de ce qui était en train de se passer sur les chaînes de valeur, alors que ces outils existent, puis après les mesures anti-dumping. Je crois qu'il va falloir aller plus loin, parce qu'on a changé de monde par rapport aux années 90. On n'est plus dans le monde de l'OMC, on n'est plus dans le monde du moment où la Chine rentrait dans l'OMC, on n'est plus dans le monde de l'accord de Paris. Et donc, à partir de là, dans un monde de retour des empires, et on le voit sur la manière dont la Chine dit qu'elle veut respecter les règles de l'OMC, mais qu'elle ne les respecte pas, et on le sait depuis des décennies, dont maintenant Trump ne fait même plus semblant, enfin les États-Unis ne font même plus semblant du sujet, je pense qu'il faut changer de logiciel et qu'on aura besoin d'autres outils. Est-ce que je crois qu'il va sortir quelque chose de ce séminaire ? Non, hélas. Pour une raison très simple, c'est qu'encore aujourd'hui, l'Europe est globalement gagnante du commerce international.
Très largement. 365 milliards d'excédents, la balance commerciale.
Il y a 4 ou 5 pays seulement qui sont dans notre situation. Et dans ces 4 ou 5 pays, la France est le seul des grands pays européens. Je crois qu'on partage ça avec la Roumanie notamment. Enfin, quelques-uns qui ont une balance commerciale commerciale négative. Et donc, à partir de là, ça a été très, très clairement dit, je crois, lors de l'accord du Mercosur par la présidence danoise. C'est quand même assez dingue. Un ensemble économique qui profite du commerce international et qui voudrait mettre du protectionnisme. Et pourtant, je pense simplement que la situation française, parce qu'on a choisi la désindustrialisation, parce qu'on a fait le choix de Serge Turuc dans les années 2000, n'est que prémonitoire de ce qui va arriver au niveau européen. Parce qu'avec une différence de coût réelle ou affichée de 30 à 40% sur tous les biens industriels avec la Chine, personne ne résistera. L'Allemagne,
avec une techno, souvent
on verra quel sera son commerce extérieur, mais risque d'avoir de gros soucis et elle basculera, à mon avis, sur un point de vue plus celui qui est actuellement exprimé par le président de la République. Il faudra se protéger et sans doute les outils actuels de la Commission européenne n'y suffisent pas.
Allez, Jean-Marc, rapidement pour finir le tour de table et puis on va passer à...
Juste très rapidement, trois remarques. La première remarque, sur, je suis économiste mais je suis protectionniste. Juste, je rappelle que le premier cours d'économie jamais professé dans une institution a été, une institution universitaire, a été par quelqu'un qui s'appelait William Nassau Senior. Et il a commencé son cours par la première phrase qu'il a écrite au tableau devant les représentants du gouvernement anglais qui étaient tout plus ou moins protectionnistes. Nul n'est économiste s'il est protectionniste. C'est simple. Donc, formule qui a été reprise en
ce moment. Time to change.
Attaque a créé son mouvement protectionniste en faisant référence à Tobin, il a dit, surtout, ne me référez pas à moi parce que moi je suis économiste, donc, je suis contre le protectionnisme. La deuxième remarque que je ferai, c'est que, effectivement, je rejoins ce qu'a dit Olivier, c'est-à-dire qu'il y a un paradoxe d'être la zone qui dégage le plus l'excédent avec la Chine sur le plan du commerce international et être celle qui réclame des mesures protectionnistes. Alors là, c'est totalement...
Le beurre et l'argent du beurre, cher Jean-Marc.
Alors, troisième élément, c'est de dire, oui, mais vous allez voir, notre commerce extérieur va se détériorer. Mais bien sûr qu'il va se détériorer. Et il va se détériorer, l'exemple japonais est là. C'est-à-dire que le Japon a à l'heure actuelle un déficit commercial qui est de la même ampleur que le déficit commercial français, c'est dire. Et donc, mais regardez la balance des paiements courants du Japon. Le Japon dégage 200 milliards de dollars d'excédents. Parce qu'ils sont allés chercher, effectivement, des bénéfices à l'étranger. Ils ont fait du Serge Turuc. Oui. Ils ont dit, on va supprimer nos industries parce qu'on n'aura plus personne à mettre dedans. Et c'est ma conclusion relative, c'est-à-dire que ce dont a besoin le pays, c'est pas d'usines de semi-conducteurs, c'est d'EHPAD. Je le déplore, mais c'est comme ça. Donc, on peut y vivre dans l'illusion.
Quel projet !
Mais c'est pas une question de projet, c'est un constat. C'est-à-dire,
mais il faut se projeter.
On aura besoin, mais on a encore quelques jeunes quand même.
Et quand on se projette, eh bien, on constate qu'il n'y a plus d'enfants.
Faire vivre et faire rêver.
Et, et donc c'est, alors, on peut dire que c'est un projet, mais on constate qu'il y a eu plus de décès l'année dernière. Alors, je ne sais pas si c'est un projet, mais c'est un constat.
Allez,
il y a eu plus
vite.
De décès que de naissance.
Très vite, la réponse
d'Emmanuel.
On va changer de sujet,
simplement pour dire à Jean-Marc, sa vision est un peu caricaturale. Il n'y a pas protectionniste versus libre-échangiste.
Allez t'affirmer.
C'est un peu plus subtil. Et d'ailleurs,
je trouve que la critique de Tobin est assez sévère.
L'anti-dumping et l'anti-subvention, d'ailleurs, ça ne s'appelle pas du protectionnisme au sens juridique du terme. C'est de la défense commerciale contre des pratiques déloyales. Quand tu as une industrie qui est subventionnée, est-ce que c'est de la concurrence loyale?
La bonne concurrence, c'est le level playing field.
Tu peux pas être contre le SEM level playing field. Voilà. Donc ça, c'est pas du protectionnisme, c'est de la lutte contre la concurrence déloyale. Et d'ailleurs, ça s'appelle en droit de la défense commerciale. Donc je pense qu'un protectionnisme ciblé qui met fin à des pratiques qui sont injustifiables économiquement, au premier rang desquelles la subvention publique sectoriel et le dumping, ce sont des choses qui sont relativement entendues par les économistes, fussent-ils libérales comme moi.
Je pense que ce débat est appelé à perdurer. Il faut qu'on avance, il est 10h09.
Juste une toute dernière remarque. Concernant les subventions et tout ça. D'abord, c'est du pouvoir d'achat pour nous, ces subventions.
Oui, donc, c'est 1500 euros de pouvoir d'achat annuel.
Il faut remercier l'État chinois qui nous assure du pouvoir d'achat. Quant au fait
qui détruit des emplois.
Ah ben, il assure du pouvoir d'achat.
Il nous met en situation de dépendance.
Et le deuxième élément, c'est qu'il y a 95% des salariés à la surface de la planète qui gagnent moins que le SMIC. Donc il y a 95%, sachant que le SMIC en France est subventionné. Il y a quand même 95% des gens à la surface de la planète qui devraient demander à ce qu'on prenne des mesures de rétorsion contre les exportations françaises, parce qu'il y a effectivement du dumping de l'État français.
On n'est plus dans ce monde-là.
Y compris dans les loyers, avec l'encadrement des loyers. Est-ce que ce n'est pas une forme de dumping finalement ? L'expérimentation de l'encadrement des loyers, alors ça date de la loi Allure 2014, mais ça a été mis en place en 2018, va toucher à sa fin. C'était une expérimentation pour 8 ans, dans 6 mois, jour pour jour, l'encadrement des loyers qui s'est développé dans une 60aine de villes aujourd'hui, quand même très largement, prendra fin. Et le débat est en train de remonter Matignon. Alors, c'était époque, François Bayrou avait commandé un rapport à l'Institut des politiques publiques que nous nous sommes procurés. C'est un rapport qui est remis aujourd'hui même au ministre du Logement. Et ce rapport, cette note, explique, est assez sévère sur les résultats au final. Explique que finalement, ça n'est pas efficace, que c'est plutôt coûteux et que à long terme, c'est même assez nocif, ça veut dire quoi? Qu'il faut le balayer? Enfin, ça permet quand même, dans des zones tendues comme à Paris ou en Île-de-France, de limiter les flambées des loyers, non?
Alors, il y a quand même un petit effet positif. Alors, d'abord, le résultat est annoncé. Hein.
Oui.
Jean-Marc disait, nul n'est économiste s'il est protectionnisme, nul n'est économiste s'il croit à l'encadrement des loyers. Oui. Enfin, on va retrouver, à mon avis, dans le rapport, ce que l'on sait déjà.
C'est 2 à 4% il y a largement futé, on connaît la lutte. Enfin, donc, non, moi, j'en ai parlé ce matin. C'est 2 à 4% de réduction des loyers.
Il y a quand même un bénéfice, mais heureusement qu'il y a ce bénéfice, puisque c'est l'objectif même de l'encadrement des loyers, c'est dans les zones tendues, et notamment pour les personnes qui ont des moyens modestes, oui. Ça a permis, en effet, de limiter la hausse des loyers. Mais le problème, c'est les effets pervers. Comme en réalité, l'encadrement des loyers, elle porte sur le mètre carré. Si vous avez un très grand appartement de 200 mètres carrés à Paris, donc a priori, vous êtes plutôt une CSP+, oui. Vous en profitez aussi. Donc, il y a déjà l'effet d'aubaine. Anti-redistributif. Mmh. Et surtout, il y a l'effet auquel tout le monde s'attendait. C'est qu'en fait, des personnes, enfin des propriétaires, retirent du marché ces biens, soit pour ne plus les mettre en location, soit pour les mettre à d'autres usages, du style Airbnb, etc. Donc, vous avez raréfication de l'offre. Et donc, l'effet pervers, c'est qu'il devient paradoxalement encore plus difficile d'obtenir un appartement. En d'autres termes, vous allez avoir une sorte de conflit insider-outsider. Celui qui a un appartement n'a plus envie de bouger, en se disant, tiens, j'irai bien peut-être à Bordeaux.
C'est ça, il y a moins de turnover, moins de rotation.
Et donc finalement, vous avez moins d'offres. Vous avez une mobilité plus basse et même, à mon avis, on va trouver des résultats intéressants en termes de qualité. Puisque je ne peux pas reporter les hausses de prix, je vais en réalité moins entretenir.
Rénove moins, oui, c'est ce qu'ils disent.
Et en plus, visiblement, il y a des mesures de contournement assez efficaces qui ont été constatées. Donc finalement, pas de secret, pas de révélation. On trouve ce que raconte la science économique pour le coup depuis 2 siècles. L'encadrement du loyer, à la fin des fins, ça fait une raréfaction de l'offre. Il y a eu des expériences à San Francisco, à Berlin, dans le Massachusetts, et à chaque fois, c'est le même constat.
C'est juste le principe même que.
Et c'est le marché.
Dès qu'on encadre les prix, il y a une pénurie.
Un rationnement.
Finalement, c'est un peu ce qui s'est passé sur le pétrole aussi, non, Jean-Marc?
Oui. Je rejoins Emmanuel sur le fait que c'est pas une surprise quand même, et que oui. Enfin, c'était la stratégie de Bayrou, de nommer des commissions pour retrouver des résultats élémentaires. Donc, il avait été haut commissaire.
Somme toute assez efficace.
Donc, haut commissaire, il était assez haut pour que ce soit stratosphérique, ce qu'il racontait. Mais il avait fait la même chose avec son l'affaire des retraites, avec
le conclave.
Le conclave sur les retraites. Bon, alors par rapport à juste ce que disait Emmanuel, donc deux choses. La première chose, c'est que vous avez un économiste suédois célèbre qui avait cette formule, qui disait il y a deux façons de détruire une ville.
La
vous la bombardez ou vous imposez un contrôle des loyers, un blocage des loyers. Et puis, une autre citation assez célèbre, le premier ministre du logement s'appelait Arthur Levasseur et il était député de l'endroit où nous sommes en ce moment. Il était député du 15e arrondissement et il a fait son discours en tant que premier ministre du logement en disant « Être ministre du logement, c'est être ministre des locataires ». Et donc Charles Gide, qui était le professeur d'économie au Collège de France de l'époque, avait dit « C'est donc être ministre
du logement,
c'est être ministre de la pénurie ». Puisque, effectivement, comme le disait Emmanuel, vous prétendez favoriser les locataires, vous bloquez les prix, et donc, à la fin des fins, vous organisez la pénurie.
Donc, quoi, c'était, Olivier Louancy, un argument des politiques, finalement. Il y a une coalition, des maires pour l'encadrement des loyers. On voit que ça a fait fleurir.
Je voudrais élargir un peu le débat, parce qu'en fait, on a une crise du logement. Enfin, ça, c'est que la partie émergée.
En fait, c'est une mauvaise réponse à un véritable problème.
On a une crise du logement. Alors, j'ai beaucoup travaillé sur les sujets industriels. Je suis pas le seul. On essaie d'esquisser des solutions collectives sur le sujet. Je pense qu'on a une vraie feuille de route. Je suis désolé de le dire, mais sur la partie logement-bâtiment, je n'ai pas vu ce travail de fond être fait en France. Oui. Et ça va de la production des matériaux de construction à toute la chaîne de distribution, à la promotion, jusqu'à la location, etc. Je crois qu'on a un vrai sujet là-dessus. Et finalement, on est sur la partie émergée de l'iceberg, là. La question de la tension, donc on veut réguler le loyer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est ce qu'on disait, c'est on a choisi de vivre dans un monde d'efficacité économique par le marché. C'est le principe de base. Ce type de régulation va à l'encontre de ce principe. Elle peut se justifier à condition, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, que le logement soit considéré comme un bien ou comme un produit essentiel et qu'il faut qu'il soit accessible par tous. D'ailleurs, c'est la justification de ce type d'encadrement. Oui. Est-ce que c'est le bon outil ? de faire cet encadrement pour y arriver. Je suis pas tout à fait convaincu. Oui. En tous les cas, les résultats aujourd'hui pour une zone dans laquelle nous vivons tous et qu'on le voit tous les jours, c'est quand même une tension de plus en plus forte avec des gens modestes qui doivent travailler en centre urbain et qui n'ont plus les moyens d'y loger et donc ont des qualités de vie déplorables à cause de transport, etc. C'est pas ça de faire un joli projet commun de vivre ensemble.
Bon. Donc, un véritable sujet, une mauvaise réponse à un vrai sujet qui demande effectivement de nouvelles politiques publiques.
Autour de cette table, considérer qu'il y a trop de logements dans ce pays. C'est-à-dire qu'il y a trop de logements, sauf qu'ils ne sont pas aux endroits où on les attend.
Oui.
Et donc, vous essayez de vendre dans ce qu'on appelle la diagonale du vide, vous essayez de vendre l'appartement, vous ne trouverez aucun acheteur. Je rappelle qu'au moment où Alstom a voulu reconfigurer sa présence industrielle, notamment en Alsace, et a décidé de fermer une partie de son implantation à Belfort pour le porter vers le nord de Strasbourg, les ouvriers ont dit, écoutez, nous, on ne peut pas y aller parce qu'on est propriétaire de nos appartements à Belfort, et c'est invendable. Et donc, je pense qu'il y a aussi une réflexion d'aménagement du territoire, et surtout à l'ère du télétravail. Il y a deux choses quand même qui sont assez frappantes, c'est-à-dire que le télétravail et l'INSEE a montré dans un rapport récent que c'était plus efficace sur le plan de l'organisation économique. Donc, est-ce qu'il ne faut pas amener une solution à une réflexion d'approfondissement du télétravail ? Et la deuxième chose, c'est Vinci sort régulièrement une statistique sur le nombre de gens qui sont dans les voitures qui rentrent à Paris le matin. Et donc, lorsqu'ils ont commencé, il y avait à peu près 75% des voitures où il y avait une seule personne. Maintenant, on est à 90%. Donc, au moment où on nous dit qu'il y a un problème de prix de l'essence, il y a un problème quand même qui est un problème de réchauffement climatique que nous vivons quand même en ce moment de façon très très physique.
Eh oui.
La population continue à utiliser sa voiture de façon...
Peut-être que ça change avec le signal prix.
Et donc, je pense qu'il faudrait aussi réfléchir à l'aménagement du territoire, l'utilisation de la politique vis-à-vis de la facturation des carburants, vis-à-vis de l'aménagement du territoire.
Allez, il nous reste 10 minutes, moins de 10 minutes ensemble. Il est 10h passé 18 minutes sur FM Business, on est toujours en direct. Le dernier sujet, je voulais qu'on parle, shrinkflation. Vous savez, ce mécanisme industriel qui est que pour compenser l'inflation, on réduit les doses dans les produits que l'on vend, mais pas toujours sans le dire aux consommateurs. Et pour cela, Milka vient de se faire condamner par un tribunal allemand et c'est une première, Emmanuel Combe.
Oui, c'est une première en Europe. Alors, la shrinkflation, c'est ancien, ça a une bonne dizaine d'années. Et ce qui est intéressant pour nous, les économistes, c'est qu'on voit les études académiques sortir. Il y a une étude là de 2025 ou 2026 qui montre. Alors, c'est pas tous les producteurs qui font cela. C'est très ciblé sur, typiquement, les achats du quotidien.
Oui. On l'a quand même pas mal vu dans les supermarchés.
Céréales, produits détergents, etc. Par exemple, aux États-Unis, il y a une étude très intéressante qui montre que c'est à peu près 2% des produits. Mais ce qui est intéressant, c'est pas seulement la quantité, c'est la hausse de prix implicite. Parce que si vous réduisez les quantités sans bouger le prix,
le même prix,
ça revient en fait à faire monter le prix.
Mais souvent, c'est les deux d'ailleurs. C'est ceinture et bretelle. On réduit et on augmente le prix.
Ça équivaudrait, sur les statistiques, à une hausse de prix de 12%. Je veux dire, c'est énorme.
Eh oui.
Alors, c'est là que ça devient intéressant.
C'est de l'inflation cachée.
Parce que si je vous annonce que votre paquet passe de 10 euros à 11,20 euros, 12%, ou 12 euros plutôt, vous allez me dire, mais non, 11,20 euros, vous allez me dire, mais attendez, moi, je vais changer de producteur.
Eh oui.
Parce que c'est visible.
Eh oui.
Donc, quand j'augmente les prix de 12%, je sais que je vais le payer parce que la demande est ce qu'on appelle élastique. Dans les biens de grande consommation, l'élasticité de la demande, je ne veux pas être trop technique, c'est à peu près 1,2, moins 1,2. Si j'augmente les prix de 10%, je perds 12% de clients. En clair, je fais gaffe avant d'augmenter les prix. Par contre, la shrinkflation, certes, je vais afficher le prix au kilo, mais comme le consommateur ne regarde pas, je ne suis pas sanctionné. Et donc, ce que vous montrent les études économiques, c'est que l'élasticité à la taille, en clair, quand je réduis la taille de 10%, je n'ai strictement aucun effet sur
aucun
les ventes.
Effet.
Quasiment aucun effet. Donc, je me mets à la place d'un producteur, je me dis, mais j'ai plutôt intérêt à augmenter les prix en baissant la taille, en baissant les volumes, parce que le consommateur est complètement myope. Donc, vous voyez, c'est une pratique quand même assez trompeuse. Enfin, du point de vue du droit, c'est ce qu'on appelle une pratique commerciale trompeuse.
Oui.
Mais on comprend bien l'intérêt, l'incitation qu'il y a à faire ça, parce que justement, le comportement du consommateur est complètement différent lorsqu'on lui présente un prix facial et lorsqu'on lui présente un prix au kilo. Donc, il y a une incitation naturelle. Après, la question, c'est pourquoi toutes les entreprises ne le font pas. Et à mon sens, elles ne le font pas parce qu'elles se disent que c'est peu probable qu'elles soient détectées. Qui va aller regarder le prix au kilo ? Enfin, en tout cas, pas moi. Par contre, le jour où elles se font détecter,
ah oui,
le jour où il y a une campagne qu'on fait, ce qui se passe en Allemagne avec cette fameuse marque de barre chocolatée, là, je vous dis pas l'effet sur la réputation. Donc, c'est intéressant. Pratique maligne, parce que ça permet de tromper assez facilement le consommateur, et en même temps pratique risquée dès lors que je me fais, entre guillemets, prendre. En France, je vous rappelle que l'affichage du changement de volume est obligatoire depuis 2024.
Depuis juillet 2024. Ah, vous avez une loi qui oblige tous les distributeurs français à informer les consommateurs. Moi, je ne suis pas sûr d'avoir vu beaucoup d'informations sur les produits du quotidien qu'on achète dans les supermarchés. Alors, est-ce qu'on se dit que c'est la liberté d'entreprendre et qu'on maximise les bénéfices pour l'entreprise, Jean-Marc Daniel. Donc,
écoutez,
ils ont tout à fait le droit.
À partir du moment où les gens sont informés, il y a sur le prix du paquet, ce qui est intéressant, il y a deux choses pour moi. La première, c'est qu'effectivement, comme l'a dit Emmanuel, et c'est un vieux résultat qui date de Keynes, les gens sont sensibles à la valeur nominale et pas à la valeur réelle du prix. C'est-à-dire que si vous avez effectivement des prix qui augmente, mais qui un salaire qui augmente moins vite, les gens sont quand même contents de voir que le salaire a augmenté. Et donc, ils ne s'aperçoivent pas que l'inflation leur a fait perdre du pouvoir d'achat, même si leur salaire a augmenté. La deuxième chose, c'est que l'INSEE s'est posé la question sur les services. Alors, comment enregistrer, par exemple, c'est un débat qui existait, les défaillances des transports collectifs. C'est-à-dire, vous payez votre ticket de métro le même prix, et puis on le voit bien maintenant à Paris en ce moment, pour avoir un bus, il faut attendre 10 minutes. Vous avez des lignes, la SNCF, tous les week-ends maintenant, la SNCF vous annonce, donc là, c'était sur le réseau Sud-Est, 4 heures de retard.
Ah oui, jusqu'à 8 heures de retard hier.
Donc la SNCF vous rembourse une partie, mais concrètement, vous avez payé quelque chose, un certain prix, pour un service qui est très très largement inférieur,
dégradé,
très 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 dégradé, et donc vous avez un problème qui est un problème d'identification des conséquences de la dégradation du service. Quand dans le domaine purement quantitatif, c'est assez facile à mesurer. Or, il y a beaucoup de choses qui sont des choses qui relèvent du service. Au moment où il y avait la mesure de l'inflation dans les pays d'Europe de l'Est, le FMI avait mis en place un indicateur qui était le temps de queue.
Oui.
En disant que vous aviez un prix qui était affiché, vous aviez un prix affiché, donc vous aviez un salaire affiché, donc vous aviez un pouvoir d'achat qui était stable. Alors il disait, en réalité, ce pouvoir d'achat, il fallait mesurer ce qu'on avait
en distance
à payer sur le plan monétaire, et puis le temps qu'on avait été obligé de consacrer pour obtenir le bien en question. Il disait, il y a une inflation qui est une inflation masquée, mais qui est une inflation délirante. Et donc, je pense qu'il faut réfléchir effectivement.
La Q-flation.
Voilà. Comment on mesure vraiment l'inflation?
Pas mal, avant la shrinkflation. Olivier.
Oui. Alors, je sais que l'émission s'appelle Les Experts, mais on n'est pas experts de tout. Donc, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Je pense que les autres personnes autour de la table l'ont très bien fait.
Non, mais est-ce l'interrogation
que j'ai,
on a beaucoup
l'interrogation
parlé
que j'ai, c'est est-ce que c'est le bon moyen d'action publique? C'est-à-dire, est-ce que judiciariser ce type de dérive-là?
Oui.
Et est-ce que c'est le bon moyen? Sans doute, dans les cas extrêmes, je suis incapable de dire si le cas Milka en Allemagne est un cas extrême et Emmanuel, tu l'as qualifié. En revanche, mon sentiment, c'est que dans ce type de situation, avoir des organisations de représentants des consommateurs qui font ce travail au nom des consommateurs est sans doute un moyen de régulation qu'on va dire soft, parce qu'il n'est pas par là de droit, etc., qui va toucher sur la réputation, le fameux name and shame, qui sera beaucoup plus efficace. Dans les relations sociales, on a des syndicats. On dit toujours, les syndicats de salariés n'ont pas les mêmes moyens financiers que les organisations patronales. Donc, la puissance publique a organisé de dédier des ressources aux organisations syndicales.
Oui.
C'est exactement la même logique en premier rang qui devrait jouer. Et on vient d'ailleurs de prendre, je crois, au niveau public français, une décision totalement inverse en supprimant un organisme de protection des consommateurs.
60 millions de consommateurs pour pas nommer.
Non, mais la protection du consommateur, c'est la concurrence. Hein. Si les gens ne sont pas contents parce que Milka a enlevé 50 grammes sur leur pack de chocolat, ils peuvent
agir.
Et tu as une dissymétrie de l'information, on le voit bien. Donc quelque part, tu dois la récupérer, tu dois la compenser.
Mais oui. Mais alors encore une fois, vous avez une vision de la population autour de vous entre le fait que vous n'avez pas réalisé que c'est des vieux et qu'il faut les mettre dans des EHPAD et pas dans des usines.
Je vois
que les gens font leurs courses en disant on se fait avoir, ils ne comprennent rien. Heureusement qu'il y a 60 millions de consommateurs et que l'État est là pour les apporter. Non, les gens sont capables de se rendre compte de ce qui se passe.
Si je suis Jean-Marc, je vais intenter une action en justice parce que j'ai payé 12 centimes de plus mon paquet de pâtes. Ça n'est pas raisonnable.
Non, mais je ne fais pas une instance. Donc je rejoins, je choisis un nouveau fournisseur, donc je rejoins
Olivier. Mais encore faut-il que tu le saches, parce que tu n'as pas regardé. Alors tu pars du principe que le consommateur a le temps de regarder.
Oui, je pars du principe que les gens ne sont pas idiots.
Bah, c'est pas qu'ils sont pas idiots, c'est qu'ils ont pas le temps de regarder. Moi, je suis assez d'accord.
Oh, quand on fait ses courses, on peut regarder le poids qui est sur le paquet.
Je t'ai pas interrompu, je peux juste terminer. Pour le coup, je rejoins complètement Olivier. Moi, je crois beaucoup aux corps intermédiaires et notamment aux actions de groupe. J'ai toujours été un partisan des actions de groupe. Quand vous avez une belle action de groupe...
Attends, on ne va pas faire une action de groupe parce que la barre chocolatée a perdu 5 grammes.
Non, vous n'avez pas compris. C'est plus compliqué que ça, c'est l'effet de signal. Le but d'une régulation, un petit mot sur la régulation, j'ai été quand même régulateur pendant 10 ans, c'est pas de surveiller tout le monde, c'est que celui qui se fasse attraper, si j'ose dire, paye pour les autres. Oui. C'est l'effet de signal. C'est quand vous êtes une grande marque et que vous êtes fait attraper, je peux vous dire que les autres, quand l'autorité de la concurrence faisait une sanction et qu'on communiquait sur la sanction et qu'on publiait une injonction à publier un extrait d'action dans la presse, vous dire que ça calme tout le monde. Le but d'une loi, c'est pas de mettre un fonctionnaire dans chaque magasin pour faire des relevés de prix. C'est laisser le marché jouer et il y aura un corps intermédiaire qui s'appelle l'association de consommateurs qui fera ce boulot. C'est ce qui s'est passé en Allemagne. Donc je crois qu'on a besoin de très peu de cas. Mais quand vous avez peu de cas, ça envoie un effet de signal et sa discipline, tout le monde. Donc, je suis pas du tout d'accord avec Jean-Marc. L'idée est pas, en effet, que chacun aille en justice pour réclamer quelques euros.
Il s'agit pas d'aller en justice, il s'agit de changer de fournisseur. Et quand je fais mes courses, j'ai pas besoin qu'une association de consommateurs me dise, tu dois acheter ce produit,
tu dois
acheter.
Regarde bien l'étiquette. Elle te dit, regarde bien l'étiquette.
Regarde bien l'étiquette.
J'ai pas besoin qu'une association me dise, regarde l'étiquette.
La discipline.
Très intelligent, Jean-Marc.
Bon, je suis normal.
La discipline dans les supermarchés et sur ce plateau. Merci. Demain, vous retrouverez les experts. Merci à tous les trois pour cette émission passionnante. Demain, les experts seront à KPM. Ne ratez pas cette émission, cette journée exceptionnelle organisée avec le MEDEF et BFM Business. KPME, on sera en direct de 7h30 à 18h à Station F avec Serge Papin. Peut-être qu'on parlera du contrôle des prix avec Patrick Martin, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'invités et d'émissions. Tout de suite, vous retrouvez BFM Entreprise spécial leadership animé par Sandra Gondemoin. Et quant à nous, on se retrouve demain, donc 10h, horaire spécial, 10h, 11h, en direct de Station F pour KPME. Très bonne journée à tous.